Radio SF, la radio qui a le plus de hits.
Émission spéciale Radio SF autour d'Elisabeth Deporte, été 2014.
Radio ESAP, c'est la radio des élèves.
Dans l'ouest du canton de Vaud, sur la côte, plus précisément entre Crassier et Boret, juste au-dessus de Nyon, cette année 2014 prend une signification toute particulière pour l'école. Il s'agit de l'établissement scolaire ESAP, autrement dit l'école Elisabeth Deporte. En effet, c'est la commémoration des 100 ans de la mort d'Elisabeth de Porte qui deviendra par la suite Elisabeth de Wattenville par mariage. Les autorités communales du groupement scolaire de cette région vaudoise ont emprunté son nom en renommant ainsi en 1996 le collège existant pour rappeler le charisme et l'histoire de cette personnalité. Mais qui se cache derrière ce nom énigmatique pour la plupart de nos élèves, grands comme petits ? Que cela évoque-t-il pour l'école, pour ses enseignants, pour ses autorités et finalement pour sa population ? Voilà des questions qui ont traversé nos esprits depuis fort longtemps. L'intention de créer cette émission spéciale autour d'Elisabeth Deporte se résume à deux choses. Tout d'abord, que ce nom évoque-t-il aux élèves de notre école, tout niveau et toute classe confondue, sans avoir reçu le moindre détail à son sujet ? Et deuxièmement, de permettre de récolter au travers d'une interview avec Serge Mély, syndic actuel de la commune de Crassier, toute une palette d'informations sur le collège et sur cette dame, afin de préparer une journée spéciale
le 31 octobre
prochain sur Elisabeth de Porte, bien entendu, et notre collège. Pour que cette fête devienne réalité et aussi une réussite, certaines activités vont être préparées en classe par tous les élèves et les enseignants qui les encadreront durant ces prochaines semaines, bien évidemment selon l'âge des élèves et selon les thématiques qu'ils devront traiter. Alors, notez toutes et tous dans votre calendrier ou votre agenda la grande manifestation locale qui se prépare, à savoir le vendredi 31 octobre 2014, dès 17h, à l'établissement ESEP précisément. Et sans plus tarder, je vous propose d'écouter durant cette émission deux séquences, l'une sous forme de micro-trottoir auprès des élèves de l'établissement, petits et grands, et l'autre une interview avec Serge Mély. Pour Radio ESEP, c'était Laurent Zemp.
Radio ESEP, la radio qui déchire un max.
Voilà donc un échantillon de réponses d'élèves de l'établissement ESEP qui ont bien voulu jouer le jeu à mes questions. Cela regroupe des enfants allant des classes enfantines de première et deuxième année, passant par des classes de 4e, 7e, 8e et 10e année scolaire. Le but n'était pas de les piéger, ces chers élèves, mais de savoir quelles étaient véritablement leurs représentations de Madame de Porte. Alors on écoute tout de suite ce qu'ils en disent.
Radio ESEP, c'est le son qu'il vous faut.
La question c'est qui est Elisabeth de Porte ? Alors, vous essayez d'expliquer avec vos mots, chacun avec vos mots.
Et si on ne sait pas ?
Ben, vous avez le droit de dire que vous ne savez pas.
Ok. C'était une reine il y a très très longtemps ?
Une école ?
L'école.
De Crassier, Jean-Jean, Larry, Boret.
Elle avait des portes, c'est plusieurs écoles. C'est une dame qui dirige l'école de Boret, Jean-Jean. Crassier, la Ripe.
C'était une fille qui a créé des écoles un peu partout et qu'elle les a toutes construites le même jour.
Une fille ? Mais EBE.
Qu'est-ce qu'elle a fait ?
Créer des écoles.
Donc la question, c'est qui est Elisabeth de Porte ? qu'est-ce que cette personne représente pour toi ?
Je vois.
Je sais pas.
Je sais pas.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait imaginer qui représente cette dame ?
Une star. La reine Elisabeth Tout.
Et pourquoi Elisabeth Tout ? Qu'est-ce qui t'a fait penser que ça soit une reine ?
Parce qu'une fois, je suis allée en Angleterre.
Et c'est le nom Elisabeth qui t'a fait penser à ça ?
Oui. You never feel happy.
no, you won't. Until you try, you'll never got me.
La web radio qui déchire un max.
Elisabeth Deporte est la personne qui a créé tout plein d'écoles pour que les enfants puissent aller à l'école.
C'est une femme qui a créé les écoles, qui s'appelait Elisabeth.
Une dame qui a construit des écoles pour des handicapés.
C'est la fondatrice de plusieurs écoles.
C'est une dame qui a donné son nom à cette école.
C'est une fille qui a construit l'école, qui a donné le terrain, qui a financé.
C'est la dame qui a fondé l'école, en fait. Et puis, elle a vécu environ 102 ans.
C'est une dame qui, quand elle est morte, elle a donné son héritage pour créer l'école.
Elisabeth Deporte est la fondatrice des écoles EZEP.
C'est une dame qui a créé, je crois, l'école enfantine, et après ça s'est agrandi. Et après elle a créé Boret et l'école de la RIP, et aussi d'autres écoles, je crois.
C'est la personne fondatrice des établissements scolaires Elisabeth Deporte, sur lesquels ont été bâtis les bâtiments.
C'est une dame qui a inventé l'école, qui s'appelle Elisabeth Deporte, et qui l'a fait créer, et je crois que je ne sais pas plus.
C'est celle qui a donné de l'argent ou prêté du terrain. Déjà qu'elle a fait quelque chose pour l'école.
Elisabeth Deporte est une femme qui a fabriqué des établissements pour permettre aux enfants d'apprendre et de devenir plus intelligents.
D'accord. Et en quelle année est-elle morte ?
Elle est morte ? Je ne sais pas.
Il y a un petit moment, je pense, matin, un peu plus.
Je crois vers 100 ans, il n'y a pas longtemps.
Il y a 100 ans.
Dans les années 1915.
Dans les années 1930.
En 1939.
Vous les hommes et tous les mêmes, macho mais tu. Le monde de ma vie est infidèle, si prévisible. Non, je ne suis pas certaine que tu le mérites. Avec de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous. Règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. qu'il a dit.
Toutes les nouveautés sont sur Radio Hazard. Hey, hey.
Nous sommes donc le mercredi 2 juillet 2014 et j'ai la chance de pouvoir interviewer M. Serge Mély. Donc, c'est le syndic de la commune de Crassier. Il est aussi député à Lausanne. Alors, la première question, c'est une question que j'ai posée en fait à bon nombre d'élèves de l'établissement, à savoir qui est Elisabeth Deporte, qu'est-ce qu'elle représente.
Elisabeth Deporte est une jeune fille issue de la noblesse protestante. Il faut insister sur le mot protestante parce que sa famille est issue du Dauphiné, est arrivée en Suisse au moment de la révocation de l'édit de Nantes, qui veut dire au moment où les protestants sont légèrement persécutés en France. Cette famille arrive à Genève et très tôt achète une propriété qui existe toujours, qui est celle de Bois d'Élie. Cette jeune fille donc a une vie tout à fait normale d'étudiante de bonne famille à Genève et vient tous les étés passer ses vacances à Bois d'Élie. Donc on peut dire que Elisabeth Deporte est quand même une jeune fille de Crassier.
Oui. Donc Bois d'Élie, pour préciser la chose, c'est quel endroit en particulier ?
Alors, c'est un domaine agricole avec une maison de maître qui se trouve sur la route de Cran.
Donc, c'est encore sur la commune de Crassier.
C'est encore sur la commune de Crassier, oui.
D'accord.
Et ça touche alors la commune de Céligny, ça touche l'enclave genevoise de Céligny.
Très bien. Et puis là, on se trouve en quelle année, plus ou moins ?
Alors, Elisabeth Deporte naît en 1812, donc on recule d'un bientôt 150 ans. Et elle se trouve être la dernière avec sa sœur Sophie à s'appeler Deporte. Le dernier des Deporte, Guillaume, n'a que deux filles.
D'accord.
Sophie, qui mariera un Deloriol, Charles Deloriol, et la famille Deloriol est toujours présente aujourd'hui à Bois d'Élie, et Elisabeth, sa sœur, qui mariera De Watteville. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Charles Deloriol, donc son beau-frère, s'occupe des affaires de Crassier. C'est assez étonnant pour quelqu'un qui a été dépossédé de ses droits par la Révolution française. Il est resté très attaché à Crassier, dont il est le régisseur, puisqu'on ne trouve pas à ce moment-là de personnalité pour diriger la commune de Crassier. Il constate que les écoles de Boré et de Crassier sont en triste état, mal éclairées, pas chauffées, et qu'il viendrait le moment pour les élèves de ces deux communes de disposer d'une nouvelle classe.
D'accord.
Alors, son esprit de bienfaiteur le pousse à imaginer de faire un beau cadeau à l'occasion du mariage de sa belle-sœur, Elisabeth, et c'est là qu'il annonce aux deux communes que, ben voilà, à l'occasion du mariage, il va offrir la construction d'un nouveau collège. Bien sûr, les communes de Boré et de Crassier sont enchantées d'avoir ce don, parce qu'ils avaient commencé une souscription, donc les gens, assez pauvres quand même à l'époque, allaient verser quelques francs pour construire le collège. Charles Deloriol constate que jamais les paysans du coin arriveront à cette somme. Mais le problème, c'est que Crassier désire avoir le collège sur la commune de Crassier, et puis Boré estime qu'elle serait terriblement bien aussi à Boré.
Oui, c'est donc toujours un peu le problème avec les deux communes.
Voilà, les deux communes s'entendent très bien, mais à un moment donné, en 1838, il fallait faire un choix, et qu'on peut comprendre que les résidents de chaque commune la voulaient chez eux. Alors, ça dure, hein, les tractations durent, je crois que les municipalités n'en viennent pas aux mains, mais c'est assez dur comme discussion. Ce qui énerve Charles Deloriol, le donateur, qui pose un ultimatum. On vous donne 3 mois pour vous décider où vous allez construire ce collège, sinon mon offre tombe.
D'accord.
Alors ça change la donne et très vite les deux municipalités se mettent d'accord et estiment qu'on va couper la poire en deux, c'est souvent la meilleure des solutions, et construire le collège sur le col entre Boré et Crassier.
D'accord.
Le problème, c'est que quand on construit en 1838, on n'a pas d'eau à nulle part. Donc la première des choses qu'il fallait faire, c'est voir s'il y avait de l'eau pour créer un puits pour alimenter l'école,
oui,
et l'appartement. Et il est dit dans les procès-verbaux que les deux municipalités partent un matin avec la pelle et la pioche pour creuser. Voilà. On a trouvé de l'eau, on a pu construire ce collège. Charles Deloriol a pu offrir la somme.
Mais alors, ce fameux Charles Deloriol, en fait, c'est lui qui possédait toutes ces terres ou c'était les terres, en fait, qui étaient à la famille
alors,
de Porte ?
Toutes ces terres appartenaient à la famille de Porte jusqu'à la Révolution française, jusqu'en 1798, pour nous, hein, où
oui,
tous les droits féodaux tombent. Donc, ils gardent leur propriété privée de Bois d'Élie, ils restent toujours propriétaires de leur maison et de leur domaine agricole, mais ils n'ont plus rien à voir sur les terres des communes de Crassier et Boré, comme c'était juste avant.
D'accord. Ouais. Et ce monsieur Deloriol, en fait, a offert le terrain et un petit fonds pour construire une école digne de ce nom.
Tout à fait, c'est exact. Oui. C'est-à-dire que le terrain même était offert par un résident de Chaiseray. Donc Charles de Loriol a payé la réalisation du collège.
Oui. Ouais. Et puis ensuite, par rapport à cette Élisabeth de Porte.
Alors Élisabeth de Porte, puisqu'elle se marie, elle marie un Bernard de Watteville, qui est un gentilhomme bernois, qu'elle a connu à Montreux, en villégiature, et donc elle suit son mari jusqu'à Berne. Et en somme, on perd la trace d'Élisabeth de Watteville à Crassier. Même dans la famille de Loriol, on trouve très peu de papiers, pas de photos, rien sur Élisabeth de Porte, parce qu'elle est devenue Élisabeth de Watteville.
D'accord.
Mais nous avons gardé son nom de jeune fille, puisque c'est en tant que future mariée qu'elle a offert ce collège. Alors, Élisabeth de Watteville, après, a une grande histoire à Berne qu'on a découvert. C'est une femme qui est très sensible à la misère humaine, qui est très sensible à son prochain, et qui se débat pour donner aux pauvres de la ville de Berne des conditions meilleures d'existence. Notamment du côté des jeunes filles, qui sont souvent pas trop bien loties dans ces grandes villes. Et elles fondent notamment l'association des Amis de la Jeune Fille pour venir en aide aux familles, aux jeunes filles orphelines. On parle des ouvrages, donc des ateliers de couture. Elles préfèrent voir ces jeunes filles travailler que traîner dans les rues de Berne.
Et par rapport au projet qui avait été soumis avec son beau-frère, est-ce qu'elle a suivi un petit peu ce projet par rapport à l'école qui était en fait un projet aussi de porte?
Oui, oui. Alors, je ne sais pas. On a peu retrouvé sur Élisabeth de Watteville. On ne sait même pas si elle revenait de temps en temps. Peut-être venait-elle quand même trouver sa sœur, Sophie de Loriol, et elle a peut-être vu avec plaisir son collège. Mais on n'a rien pour le moment. Comment a pu réagir Élisabeth vis-à-vis de son don?
Oui.
Je pense qu'elle l'a vu construire, ça, bien sûr. Elle l'a vu être utilisée. Est-ce que cette donation est point de départ de son côté bienfaiteur? Puisqu'après, à Berne, vraiment, elle ouvre sa bourse pour aider son prochain.
Oui. Et il y a de la famille qui est très proche, en fait, de Madame de Staël et Jacques Necker. Est-ce qu'il y avait encore des contacts avec le château de Coppet?
Alors, je pense là non plus, il ne devait plus en rester beaucoup, alors que quand même, Élisabeth de Porte était la petite nièce de Necker. Donc, les relations étaient très fortes entre les deux familles, de Porte et Necker, par leur travail de banquier à Genève. Je ne sais pas quelle relation elle a gardée avec la famille Necker. Quelque chose d'extrêmement intéressant du côté de Necker, c'est qu'on sait que, brillant intendant des finances, qui a réussi à remonter, en tout cas de manière provisoire, les finances avant la Révolution française, sous Louis XVI, oui. Lui a fait une carrière privée, notamment avec les moyens d'enrichissement de l'époque, dans le trafic du bois d'ébène. Alors, il faut bien expliquer, le bois d'ébène, ben, ce n'est pas le bois, c'est l'esclavage, oui. C'est le marché des esclaves. Et bon, on ne peut pas trop critiquer Necker, qui a fait ce qui se faisait habituellement. On n'avait pas l'impression de charrier de la chair humaine. Alors Necker, entre autres, fait fortune avec le trafic des Noirs, et c'est surprenant que quelques années après, 70 ans après, sa petite nièce met toute son énergie pour défendre la condition des Noirs en Amérique.
Sur la fin de sa vie, donc, j'imagine qu'elle est morte d'une mort naturelle.
Alors, elle est morte d'une mort naturelle, puisqu'elle est morte à 102 ans. Pour l'époque, c'est quand même extraordinaire. Une femme qui a eu 6 enfants, donc quand même, c'est ce que c'est qu'une grossesse, 6 grossesses rapides, et venir à l'âge de 102 ans, elle avait une constitution extraordinaire. Et là, il y a une anecdote absolument intéressante, c'est qu'en 1912, donc pour le 100e anniversaire d'Élisabeth de Watteville, c'est ainsi qu'elle est connue à Berne, grande dame de Berne, on se met à sonner les cloches de la collégiale de Berne, qui est en somme la cathédrale. Et puis, le même jour, et l'histoire l'a retenu, on a la visite du Crown Prince qui deviendra l'empereur Guillaume II. Donc, on est juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et il a été relaté que le Crown Prince, descendant du train qu'il amène de Berlin, dit à ses hôtes, il n'y avait pas besoin d'en faire autant et de faire sonner les cloches. Quelqu'un lui aurait dit, même, c'est pas pour vous les cloches, c'est pour Élisabeth de Watteville.
Oui.
Alors, est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai, mais l'anecdote est assez intéressante du respect qu'on avait pour Élisabeth de Watteville.
Oui. Et là, donc, elle décède 2 ans plus tard.
Elle décède 2 ans plus tard. On a très peu de connaissances sur les circonstances du décès, j'en sais rien. On ne sait même pas, et ça vaudrait la peine aussi d'aller étudier une fois, où se trouve la tombe d'Élisabeth de Watteville.
Oui.
Elle est citée dans un fascicule sur les 8 plus grandes dames de la ville de Berne.
Legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Vous parliez tout à l'heure du nom Elisabeth de Porte. C'est en partie vous qui étiez, je crois, un des principaux acteurs pour donner ce nom, en fait, au collège qui se trouvait entre Crassier et Boret.
Tout à fait. L'idée de donner un nom au collège venait, ça on peut le raconter maintenant, de, comment dire, que Crassier se trouvait toujours fâché de voir qu'on ne parlait que de l'établissement scolaire de Boret. Tout le monde allait à l'école à Boret, les éléphants à Boret, tout était à Boret, alors que tout le monde le sait maintenant, toute la surface du complexe scolaire est sur Crassier. Donc il y avait un petit sentiment d'injustice de parler de toujours de Boret, et c'est là qu'on s'est dit, vu que d'autres gymnases ou d'autres écoles commençaient à porter des noms, on s'est dit, ben, on va donner un nom, comme ça, on n'aura plus ni Boret ni Crassier. Au moment de donner un nom, eh bien, il y avait eu un petit concours au sein des municipalités. Bien entendu, déjà à l'époque, on avait parlé de l'établissement scolaire de la Dôle, du Mont-Blanc, de Bonmont, ces noms importants pour la région,
tout le temps.
Mais qui ne sont pas d'une originalité extraordinaire. Et comme j'avais pu être visiter une fois le collège Isabelle de Montolieu, c'est assez aussi élaboré comme nom, je m'étais dit, alors pourquoi pas faire connaître cette histoire du mariage et quand même, quel est le début de notre école.
Oui.
Et voilà pourquoi j'avais proposé Elisabeth de Porte. Certains n'avaient pas aimé l'utilisation du « de », d'aller recourir à des gens d'une certaine noblesse.
Et c'était en quelle année
qu'il y a eu ce... En 1996, on a décidé de donner le nom. Ça a été donc l'occasion d'une magnifique fête. Les autorités étaient revêtues des habits d'époque. Il y avait eu beaucoup d'enfants. Tout le monde avait bien joué le jeu. On a souvenir d'une grande journée.
Moi, j'aurais juste aussi voulu que vous parliez un petit peu des différentes phases d'agrandissement de l'école d'Elisabeth de Porte.
Oui. Alors, tout a commencé au moment où la seule classe du bâtiment qui porte le nom actuellement de l'anneau, qui était le bâtiment d'origine, tout a commencé en 1976 avec des besoins de classe supplémentaires, avec un projet... qui s'était appelé Parabiz, et tout de suite les instituteurs et les élèves ont compris pourquoi, parce que là, sur le col, ça souffle fort. Donc, ce premier projet en 76, avec le groupement, qui est celui de la peut-être prochaine fusion, qui allait chercher les 9 communes alentour. Et puis après, très vite, ben, il y a manqué de place, on a construit le bâtiment B, et puis on a continué à avoir besoin de place, on a construit le C, en profitant des travaux du C pour améliorer le A et le B et créer un étage supplémentaire sur le B.
Donc au départ, en fait, l'anneau, il y avait une seule classe.
Une seule classe avec l'appartement du régent dessus et la chaufferie derrière. C'était vraiment une vieille classe comme les vieux les ont connus, avec une odeur de classe particulière. Il y avait 3 rangées de tables, un pupitre sur un podium, donc on voyait bien que le maître avait tous les pouvoirs. Moi, mes premières années d'école, j'ai encore connu avec un instituteur, qui était un bon instituteur, mais qui avait des vieilles méthodes, on se faisait taper encore avec la règle sur les bancs. C'est dans les années, pour moi, non, 54. Je suis de 54, donc j'étais à l'anneau maintenant, dans les 63-64.
Mais ce bâtiment de l'anneau, en fait, l'année de création de ce bâtiment, est-ce que vous savez en quelle année il a été...
Alors, il a été créé en 1830. On l'a inauguré en 1839. Donc, en 1838, les travaux ont commencé.
D'accord.
Ouais. Un beau bâtiment, il y avait des frises en pierre de taille, il y avait le clocheton qu'on a pu récupérer. D'accord. Malheureusement, il était trop mal proportionné pour recréer l'école de musique, la crèche, et on a dû le démonter. Oui. Monsieur de L'Oriol avait eu la bonne idée de récupérer des pierres de taille de ce bâtiment offert par ses aïeuls,
oui.
Et il les a utilisées pour réparer des bâtiments à bois d'élis.
D'accord.
Tout n'est pas perdu.
Et donc ensuite, en 1976, il y a l'agrandissement de l'école.
Oui, par la création du premier complexe A,
oui.
La fierté des deux communes Bourg et Crassier.
Et puis ensuite, en 1996, la décision en fait, de nommer en fait, l'école,
oui.
Élisabeth de Port,
oui.
Avec ses 9 communes qui composent l'arrondissement scolaire.
Tout à fait.
Et puis ensuite, il y a eu en 2006 une nouvelle étape,
oui.
Avec cette création du bâtiment,
bâtiment C.
Et le... rehaussement du bâtiment A,
voilà,
et B.
C'est exactement ça, c'est en 2006, avec aussi une belle fête d'inauguration.
Oui.
Et ce fameux cadre rouge, dont on ne connaît pas exactement l'origine, n'est qu'architectural, par le génie des architectes qui crée quelque chose puis qui met du rouge. C'était simplement une idée d'architecte.
D'accord.
Mais qui est excellente parce qu'elle permet de voir à travers. Et le logo de l'ESEP qui montre des champs... doré et vert, ben c'est le cadre qu'on voit, c'est disons la vue qu'on voit à travers le cadre,
oui.
Le cadre rouge.
Mais l'avantage, ouais. C'est que c'est une photographie qui change tous les jours.
Exactement, tout à fait. Pour les instituteurs, comme pour les agriculteurs qui voient à travers dans l'autre sens.
Et puis donc cette année, 2014, c'est les 100 ans d'Élisabeth de Port.
Voilà, les 100 ans malheureusement du décès d'Élisabeth,
voilà.
De Port. On a estimé que ça valait la peine de marquer le coup, puis c'est l'occasion de réfléchir un tout petit peu au futur de cet établissement, notamment de la continuation du côté de Crassier avec la place de sport et le restaurant scolaire.
Voilà.
Donc, si on regarde bien l'architecture du bâtiment C, on voit qu'on y a créé des fenêtres du côté d'Yvonne pour bien montrer que l'agrandissement en classe était terminé de ce côté-là.
Moi, j'ai encore une dernière question, c'est qu'est-ce que vous avez comme souvenir de cette école, vous en tant qu'élève ou en tant que politicien? Est-ce que vous avez une anecdote à nous...
Alors, de cette école même, je n'ai que des bons souvenirs parce que ça ne correspond qu'à des fêtes et à des inaugurations.
D'accord.
Donc, j'étais déjà président du Conseil Général en 1976 et j'avais eu l'honneur d'être major de table le jour de l'inauguration de la première étape pour le projet du A. Et dans l'excitation et l'émotion générale, je me rappelle qu'on avait... prévu de mettre un cylindre derrière la plaque. Et dans l'euphorie générale, les syndics avaient totalement oublié de mettre le cylindre et on a scellé la plaque sans mettre le cylindre.
Ah,
c'est que une dizaine d'années d'après que le syndic Paltani Bourret a dit « Mais je fais quoi avec ce machin qui traîne au bureau ?» Et lors de je ne sais plus quelle cérémonie, une petite cérémonie, on avait rouvert et on a enfilé les documents. Donc les documents sont plus tardifs que la plaque. Alors voilà, que des bons souvenirs, mais je n'ai été à l'école, moi, que dans l'ancien bâtiment de l'anneau, et ce, une année. J'ai été à l'école de Borée. Alors c'est clair que mon école enfantine s'est faite à Borée, mais à Borée même, oui. Dans la petite classe qui est devenue maintenant l'administration communale. Et là, c'est vraiment des vieux souvenirs, parce que c'est de monter le bois à la chaîne. C'est un préau comme chien de zoo, c'est un grand grillage, tout petit. Quand je l'ai revu 30 ou 40 ans après, je me suis dit, c'est pas possible, on jouait à la balle à deux camps là-dedans. Mm-hmm. Donc voilà, ça a énormément changé les conditions. Et puis, des anecdotes sur l'anneau ici, l'ancien bâtiment, mis à part de se faire battre par la région, j'en ai une autre, oui, j'arrive à citer, puisqu'on est en pleine période mondiale, j'arrive à citer ma peur du football, du fait que c'était le seul jeu qui se faisait à la récré, mais il y avait 6 années. Et on en prenait tellement dans le ventre, dans les jambes et dans la figure, les tout petits, qu'on a été quasiment, on était dégoûtés de jouer au football. Ça, c'est un souvenir.
D'accord.
Alors cet événement, ben, je me réjouis de voir que depuis le 3 octobre, les enseignants, les élèves et les parents connaîtront un petit peu mieux Elisabeth de Porte, ce qui me semble important quand on étudie dans cet établissement.
En tout cas, merci infiniment pour toutes ces anecdotes, ces informations enrichissantes sur notre collège Elisabeth de Porte et puis surtout sur le personnage phare Elisabeth de Porte. Au plaisir au début octobre.
Alors, c'est moi qui vous remercie et à bientôt.
Merci, au revoir.
Radio Zep, c'est ta radio.
Merci d'avoir écouté l'émission spéciale Radio Zep autour d'Elisabeth de Porte, été 2014. Vous pouvez réécouter cette émission de Web Radio en allant dans les podcasts de Radio Zep en tapant www.radiobus.fm rubrique Zep. Au plaisir et à la semaine prochaine sur radiobus.fm. Ciao, bye.
Radio Zep, c'est la radio des élèves. Hit it, hit it.